qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y'en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre.
Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes donc à la librairie Expérience à Lyon. Nous sommes en compagnie de Dominique Grange et de Tardy pour la présentation du livre Élise et les nouveaux partisans chez Delcourt. On est très heureux et très heureuse de vous avoir en interview. Merci à vous, bonsoir.
Mais nous aussi, bonsoir.
Mais oui, tout à fait. Bonsoir, bonsoir.
On va commencer peut-être par le tout basique, hein. D'abord sur la BD, c'est comment elle est née, cette BD, c'est quoi l'idée? Est-ce que, Dominique, il y avait un besoin de revivre ou de raconter cette histoire et votre vie? D'où ça vient cette idée de créer cette Élise?
C'est un bout de ma vie quand même, hein. C'est pas toute ma vie, parce que c'est une dizaine d'années. D'où ça vient cette Élise?
Je t'ai souvent dit, vas-y, raconte-la, raconte ton histoire, raconte-la, je la dessinerai. Mais ça, ça a pris des mois, des années, bon...
Parce qu'il y avait toujours autre chose en chantier, voilà. Où Jacques était en train de faire un album, où moi j'étais en train d'enregistrer un disque, où j'avais des concerts, où je sais pas quoi. Il y avait, voilà, là, il y a eu une disponibilité commune, et donc on s'y est mis. Et puis aussi, moi je me voyais quand même pas effacer tout ça, ou en tout cas, je pensais qu'il y avait un peu de mémoire dedans qui pouvait être utile, qui pouvait être intéresser des gens, des jeunes, que peut-être il y avait des relais qui pouvaient se prendre sur ces luttes-là. Je ne sais pas, c'est différent aujourd'hui, le panorama a changé, le panorama social. Mais quand même, raconter ça, c'était, semblait, pas un devoir, mais un besoin que j'avais de, encore une fois, de transmettre.
Oui, alors on peut tout de suite parler des collaborations passées. On peut se souvenir de l'album 1968-2008, sur lequel vous aviez déjà travaillé ensemble. Nous, on se souvient de ce très beau rendez-vous à l'Auditorium de Lyon, c'était en 2018, sur la lecture, concert...
Putain de guerre.
Putain de guerre. Oui. Donc c'était déjà une autre collaboration. Est-ce que ça a amené un nouveau rapport artistique entre vous deux, cette BD, hein?
Il est bien évident qu'on en parle. Alors il y a tout un tas de problèmes tout de suite qui se posent. Comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce que tu te souviens? Alors, bien souvent, Dominique me disait non, mais tu sais, il y a 20 ans et tout, je me souviens plus vraiment. Moi, j'ai besoin de savoir où ça se passait, comment ça se passait, etc. Parce que je vais représenter, pour représenter ça, j'ai besoin d'avoir un maximum de renseignements, de détails. Donc ça, c'est une chose qui a nécessité des heures de discussion où le lendemain Dominique me disait oui ça y est, je me souviens, c'était pas là, c'était comme ça, etc. Donc de retour en arrière, de mise au point pour arriver à mettre tout ça dans l'ordre et essayer d'exprimer au plus près possible de la réalité. Bon, évidemment on n'y est jamais, on est toujours un peu à côté, mais il est nécessaire d'avoir un maximum de renseignements, un maximum de détails pour raconter. Puis après, il y a un problème technique qui se pose, l'équilibre entre le texte, le dessin. S'il y a trop de texte, bon, on étouffe le dessin, d'abord parce qu'il prend de la place, il prend de la surface dans la planche, donc il faut rééquilibrer tout ça. Si ça parle un petit peu trop, ce qui est aussi nécessaire par moment, je disais à Dominique, attends, là on est en train d'asphyxier un petit peu le récit, puis il faut qu'on s'aère, il faut qu'on sorte, on peut pas rester tout le temps coincé avec deux personnages ou trois personnages qui causent, qui commentent les événements. Il vaut mieux les montrer, les événements, que les commenter. Donc ça, ça a été des mises au point de techniques narratives qu'on peut avoir avec un scénariste, un dessinateur.
La BD est en noir et blanc. Alors, tu as fait beaucoup de BD en noir et blanc, mais quelquefois, il y a de la couleur. Et on associe toujours le noir et blanc à 68. Du coup, il y a eu à un moment une discussion là-dessus, où c'était évident aussi de rester en noir et blanc.
Non, il n'y a pas eu de discussion. On en a parlé. Jacques s'est posé la question. Il me dit, est-ce qu'on fait des gris? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, moi, le noir et blanc, ça me va très bien, effectivement, pour cet univers-là. Et donc, ça n'a pas fait l'objet de grandes discussions. On a eu beaucoup plus de discussions sur les questions de documentation, donc de recherche d'éléments qui pouvaient avoir complètement évolué, comme par exemple les équipements des flics.
Ouais. C'est important pour l'époque.
Est-ce que vous êtes tous les deux beaucoup replongés dans des archives d'époque? Ça fait remonter peut-être aussi des souvenirs, j'imagine, des histoires. Oui. Mais c'était votre propre documentation que vous aviez, des photos, vous aviez des choses?
Oui, des photos, des journaux aussi. Et puis on va trouver de la documentation dans Paris Match, dans n'importe quoi, même dans des torchons, peu
sur
importe.
Sur Internet aussi.
Du moment qu'il y a de la doc, il y a de la doc.
Sur Internet aussi, mais bien que sur Internet, les images ne sont pas toujours datées. Ça, c'est embêtant parce qu'on n'est pas sûr du moment où les casques avaient changé, les casques des CRS, ou les cartes.
Tout le monde s'en fout des casques de CRS.
j'ai besoin
de savoir si ce sont des CRS ou des gardes mobiles et tout, parce qu'ils n'ont pas les mêmes casques, ils n'ont pas le même équipement. J'ai besoin d'être le plus proche possible de la réalité parce que c'est ce qui me permet au moins d'y croire. Et si j'y crois, j'ai plus de chances de faire adhérer le lecteur.
Alors justement, je pense que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices sont en train de fredonner l'état policier, nous le savons. L'état policier, bien sûr. Contre l'état policier. Il y a un lien qui semble quand même unir les générations dans la lutte, c'est les violences policières qu'on retrouve dans l'ouvrage. Et aujourd'hui, ça semble être un peu, avec des casques différents, mais ça semble être quand même une manifestation un peu identique dans la rue. Ça vous interpelle toujours
Évidemment.
Les voltigeurs, tout ça.
Ouais, mais c'était déjà comme ça sous la Commune. C'est chaque fois que le peuple descend dans la rue et s'exprime et revendique des choses et dit qu'il n'en peut plus, exprime sa colère, qu'est-ce qu'on fait? L'État ne répond pas, l'État lui envoie les flics. Donc c'est toujours la réponse répressive qui intervient, quoi qu'il arrive et quoi qu'on ait à dire. Donc on ne peut pas ne pas être scandalisé par ça, révolté en permanence. Moi je trouve que les violences policières, elles sont vraiment aujourd'hui sauvages, comme elles l'étaient d'ailleurs en 68. Pareil, quand les flics ratonnaient dans les immeubles, tabassaient les gens sur les paliers, etc. C'est inimaginable. Un pouvoir qui n'a que ça comme réponse, quoi qu'on pense du pouvoir. Nous, on sait que le pouvoir, de toute façon, c'est toujours la merde.
C'est pour c'est toujours répressif. Tardy, vous avez refusé la Légion d'honneur, c'est parce que c'était pas... Ça vaut pas le coup d'aller chercher une distinction remise par cet
État français. Non, mais j'ai rien demandé. J'aurais rien demandé à ces gens. Bon, voilà.
Ils vous honorent sans votre accord.
Strictement rien à foutre. Mais pour revenir sur l'histoire de la documentation, il y a pas que les journaux et tout. Il y a eu aussi beaucoup de films. Par exemple, on a cherché de la documentation sur la Petite Roquette, qui est une prison qui a disparu. Qui a pas disparu, qui a été détruite. Bon, heureusement, il existe un film sur la Petite Roquette, l'histoire de la Petite Roquette.
Un documentaire,
oui. Et le problème que j'avais, c'était la cellule. Donc Dominique, il va y passer un certain temps. Je dis, mais à quoi ressemblait cette cellule et tout? Alors, je l'ai trouvé dans ce documentaire, parce que moi, j'ai besoin de savoir où se trouvait la fenêtre, le lavabo, les chiottes et tout, l'emplacement du lit et tout, pour cette véracité, même si ça joue aucun rôle dans l'histoire. Ça pourrait jouer un rôle dans l'histoire, là, ça n'en joue pas. Sinon, de décrire cet endroit exigu dans lequel Élise se trouve enfermée. J'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de faire des repérages, d'aller sur place, etc.
Bah, du coup, c'est très réaliste, donc à la fois sur des détails comme ça un peu anodins, et puis du coup, sur les violences policières, on se dit, ça marche, puisque tout est réaliste du début jusqu'à la fin.
Mais les voltigeurs, voilà. On les a vus, oui. Moi j'en ai vu massacrer un mec dans la rue, la moto, le gars avec son bidule et tout, on les a vus, donc voilà, ça reste en tête.
Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui pavez sur nous, qui dites qu'on sent bourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Sur les médias, c'était quoi le rapport à l'époque avec les médias? Parce que, alors là, on est sur une radio libre, Radio Canu, c'est un média particulier, on n'est plus beaucoup de radios associatives sans salariés, sans pub et autonomes. À l'époque, il y avait beaucoup de choses qui ont été filmées, effectivement. Il y avait les fanzines, c'était quoi le rapport sinon aux médias? Comment on utilisait justement...
Les fanzines, pas tellement.
Non.
Après, il y avait les journaux que les groupes politiques imprimaient.
Il y avait des photographes, comme Élie Kagan, qui a fait énormément de photos en 68 et après, et dans les années 70, qui est mort maintenant, mais il y a un fonds photographique Élie Kagan qui est très, très, très important. Et puis, il y avait des... On n'avait pas de portable, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas le réflexe photo sans arrêt, sinon on aurait fait des trucs vraiment très, enfin, qui auraient été importants pour ce qu'on avait à dire et ce contre quoi on se battait, parce que si on avait pu filmer les flics sortant des blessés par exemple des bagnoles et leur tapant dessus,
des ambulances tu veux dire,
oui, des ambulances ou des gens qui avaient transformé leur voiture en ambulance, il y en avait aussi qui avaient couvert l'arrière,
la mémoire visuelle,
donc pas beaucoup de photos. Quelques films quand même, il y a aussi des films sur mai 68, Chris Marker et tout ça, qui ont été témoins de pas mal de trucs. Il y a les films des réalisateurs des états généraux du cinéma, de l'Arc, parce que les cinéastes ont très vite été mobilisés. Il y avait le festival de Cannes et ils ont boycotté le festival de Cannes et beaucoup d'entre eux ont filmé des choses dans la rue. Il y a les cinétraques de Godard aussi. Ça, c'est les traces qu'on garde filmées, les photos, je vous ai dit. À part ça, les médias...
L'époque...
Toi, à l'époque, en tant que militante, vous cherchiez un rapport avec les médias ou c'était juste...
Non.
Il n'y avait pas de possibilité, en fait.
Non, ouais. Nous, on voulait être l'ORTF du peuple.
Ouais, c'est ça.
On avait dit, les actions qu'on faisait étaient suffisamment symboliques et quelquefois même, frappantes pour les gens, donc l'idée c'était si on veut se faire entendre, il faut faire des actions spectaculaires qui retiennent l'attention des gens, comme si on était un média du peuple. Mais on n'a jamais essayé d'avoir des rapports avec les journalistes. Et puis encore une fois, les radios libres n'existaient pas, les radios associatives, ça va être plus tard. Non, je crois vraiment qu'on s'en foutait complètement. On n'était pas encore entré dans l'ère médiatique où tout est médiatisé, où dès qu'on fait un truc, il faut qu'il y ait une trace, qu'on laisse une photo, machin, tout. On n'était pas entré là-dedans, on était... ce qui comptait, c'était l'action directe sur le moment et après, populariser les actions. Ça, on le faisait beaucoup. Dès qu'il y avait eu quelque chose d'important, on faisait des tracts, on allait les distribuer. Et puis, il y avait les journaux militants, effectivement, comme Action, comme La Cause du Peuple. Les journaux des différents groupes gauchistes. Mais c'est tout. Ça s'arrêtait là. Donc ça, quel public ça touchait, j'en sais rien, on ne se posait pas la question.
Et c'est très différent de... de la médiatisation aujourd'hui où tout un chacun et chacune peut se filmer, filmer les autres.
Nous, ce qui, était important pour nous, par exemple, c'était d'aller populariser une action ou une manif ou un truc ou un fait de répression insupportable qu'il fallait faire connaître. On allait diffuser à la porte des usines. C'était ça, notre média. C'était tout le temps garder ce lien avec les gens qui avaient été à l'initiative de toutes ces luttes, qui avaient montré l'exemple en 68 et qui avaient été ensuite renvoyés à leur boulot sans qu'il y ait beaucoup de changements. Donc garder ce lien avec eux, continuer de leur dire qu'on était toujours là, qu'on était à l'écoute, qu'on était prêt à se battre avec eux, c'était important. Et toutes les actions qu'il y a eu dans les mines, par exemple, quand il y a eu des catastrophes minières, bon, tous ces incidents, entre guillemets, là, pas la catastrophe, mais l'effet que ça a pu avoir ensuite sur les gens, c'est passé par des tracts, par des journaux, et rien d'autre, il n'y avait rien d'autre.
Oui, mais les gens parlaient aussi beaucoup au début.
Non, mais pas après.
Oui, au tout début. Non, mais là, on fait un retour en arrière.
Ah oui, moi, j'étais partie plus loin que
mais. Oui, mais ça, c'était important aussi. Oui. Parce que les gens, à un moment, il y a plus de flics, il n'y a plus rien dans les rues. La rue appartient vraiment aux gens. Et ils discutent dans tous les carrefours, partout. Il y a des gens qui parlent. Il y a un gars avec son transistor, on écoute les nouvelles. C'est le moment où De Gaulle est parti en Allemagne à récupérer ses troupes et les gens parlent. Il y a des étudiants, évidemment, il y a des ouvriers, il y a des gens de différentes professions, classes sociales et tout, qui parlent tous ensemble, qui parlent de leurs problèmes. Et ça c'était formidable, il y avait vraiment une libération au niveau de la parole. Les gens osaient parler, chose qu'ils ne faisaient pas habituellement. Ils allaient au boulot, tout le monde fermait sa gueule, c'était bon. Et là, tout d'un coup, tout le monde éprouvait le besoin. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quand même une souffrance, un mécontentement général, et qu'il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer, c'est nécessaire, il faut que ça sorte. Alors après, les choses vont être reprises en main par l'État, De Gaulle, etc.
Par les syndicats, quand même.
Les choses vont changer complètement.
Les bureaucraties syndicales vont se faire un plaisir de casser le mouvement, d'obliger les mecs à reprendre le boulot, alors que bien souvent, ils avaient strictement rien gagné, parce qu'il y a eu l'augmentation des smicards, mais tous les ouvriers n'étaient pas smicards. Et pour les autres, ça n'a rien changé. Et les conditions de travail, les conditions d'exploitation n'ont pas changé. Donc, quand les permanents syndicaux leur disaient « Allez, il faut reprendre le boulot et tout », moi, j'ai vu des mecs pleurer, j'ai vu des mecs déchirer leur carte du syndicat en disant « On s'est fait trahir, on a été trahis et tout ». Et ça, c'est quand même... Qui voulait la peau du mouvement et de la belle révolution de 68, pas seulement le pouvoir central, mais aussi les bureaucraties syndicales qui n'avaient pas vu venir ça, qui voyaient bien qu'elles ne pouvaient pas le contrôler, le mouvement, parce qu'il était sauvage. Quand c'est sauvage, personne ne contrôle. Et donc, n'avaient pas le contrôle du mouvement, ni le PC d'ailleurs. Donc, il fallait arrêter ça le plus vite possible, dire oulalalalalala. Et nous, quand on allait chanter dans les usines en mai, les chanteurs révolutionnaires du crack, Comité révolutionnaire d'agitation culturelle, on avait les permanents syndicaux qui venaient nous dire attention, là, vous arrêtez de causer politique. Quand on avait fini, on faisait débat, on discutait avec les mecs. Bon, on était avec des gens qui occupaient leur usine, qui avaient un courage énorme, qui prenaient des risques et tout, qui ne savaient pas où ils allaient, qui s'attendaient à ce que les flics viennent donner l'assaut à l'usine, souvent, donc poser la question de l'autodéfense, etc. Et il fallait pas leur dire tenez le coup, il fallait pas les encourager, il fallait pas leur dire on est avec vous et on ira jusqu'au bout. Donc les permanents ne nous laissaient pas faire, ils nous disaient non, vous êtes venus pour les distraire, point barre, vous causez pas politique avec les employés de l'usine. Ça, c'est quand même un truc.
Du coup, ça, ça transparaît bien dans la BD, la trahison de la CGT, hein, parce qu'on dit pas la CGT.
Oui.
Si c'est eux, quand même, hein, qui sont vraiment les traîtres du mouvement.
Bah, l'humain n'a pas syndical. Voulu faire. L'humain n'a pas voulu faire un article sur notre bouquin.
Ouais, bah voilà, c'est. Comme quoi, ça ne change pas. C'est triste.
Ouais, ça change pas.
Et vous, les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus du nôtre. À tous les collabos, nous on fera la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans.
Et, mais du coup, ça parle pas que de mai 68, parce que moi j'ai trouvé que bah, ça aborde pas mal la question algérienne, d'abord qui était très présente à l'époque. Et justement, j'avais une question, parce que là, il s'est passé un truc un peu bizarre, moi j'ai ressenti bizarrement. Il y a un passage sur la manif du 17 octobre 61, et cette année, Macron et le préfet l'allemand sont allés rendre hommage. Alors moi, j'ai eu plus envie de vomir qu'autre chose, mais je sais pas comment vous deux, là, vous percevez les choses en ayant quand même plus vécu que nous, on l'a vécu, quoi.
Bah, toi, tu y étais.
Moi, j'étais au rassemblement, là, à l'endroit où j'y vais tous les ans, à l'endroit où beaucoup de mecs ont été jetés dans la Seine. Il y avait sur la rambarde du quai la gerbe envoyée par le préfet. Préfecture de police, je pourrais vous montrer la photo, elle est dans mon téléphone. Une gerbe magnifique, préfecture de police, posée à côté des gerbes de fleurs des familles, des victimes et des groupes qui, depuis des années, se réunissent là pour se recueillir. Donc, j'étais un peu sidérée. Et puis, au bout de 5 minutes, on était là, on était, je sais pas, une cinquantaine à peu près. Et les CRS sont arrivés, ils nous ont virés. Ils nous ont obligés à aller de l'autre côté du pont, place Saint-Michel, alors que là, on était dans l'île de la Cité, vous voyez, côté île de la Cité. Donc, on a été renvoyés là-bas, on a été nassés, on est resté 2 heures nassés, pendant que cette gerbe était sur le parapet, à l'endroit précis où d'habitude se fait le recueillement. Il y a une stèle à la mémoire des ouvriers immigrés assassinés. Tous les ans, il y a des prises de parole, et puis à la fin, on jette les fleurs dans la Seine, et tout le monde s'en va. Ben, on n'a pas pu le faire, alors qu'ils ont envoyé les fleurs. Donc ça répond à votre question. Il a dit quoi, Mitterrand? Il a dit quoi, Macron? Il a dit que c'était le préfet Papon qui était responsable. C'est l'État qui est responsable. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'il reconnaisse la responsabilité de l'État. Et ça, il ne le fait pas. Donc, vous voyez, le comment, les contradictions insupportables. On envoie des fleurs et en même temps on nasse les gens et on empêche les vieux qui étaient là. Il y avait un monsieur très âgé qui avait moins 95 ans, qui était un survivant du massacre, qui était venu, il était soutenu, il pouvait à peine marcher et tout. Il n'a pas pu se recueillir dans cet endroit où on avait les fleurs des flics. C'est intolérable. Et c'est complètement. On marche sur la tête, là. Mais complètement.
Il faut parler aussi de. Alors, je confonds toujours ces papas dingués.
Galifet.
Le préfet de police a dit, à propos des gilets jaunes, il a dit c'est un galifet qu'il leur faut. Alors, galifet, je ne sais pas si vous savez qui était galifet. Galifet, c'était le marquis aux bottes rouges. Il était général. À la fin de la semaine sanglante, il a eu pour mission de convoyer des communards à Versailles, où ils allaient être jugés et la plupart déportés en Nouvelle-Calédonie. Et sur le trajet, ce galifet faisait sortir un certain nombre de communards et les fusillait carrément contre le mur de l'usine et puis 200 mètres plus loin contre le mur du cimetière, etc. Et ils se réclament de galifet en disant les gilets jaunes, c'est un galifet qu'il leur faudrait. C'est quand même. Alors, Gallifet, c'est, et je crois, après il a eu des, ce mec a eu des hautes fonctions
politiques.
Oui, c'est quand même gravissime, hein, mais bon, personne ne connaît Gallifet. J'en parle dans le cri du peuple.
On a une dédicace
au tout début du livre sur pour Georges Ibrahim Abdallah.
Oui.
Quel était le choix de rendre hommage?
Ben, le choix, il est clair. Georges Ibrahim Abdallah est otage de l'État français depuis maintenant 30... Il a entamé sa 38e année cette année, alors qu'il est libérable depuis 1999.
38e année de détention.
De détention, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit?
Seulement 38e année.
De détention, ben oui, bien sûr. Il est libérable depuis 1999, donc depuis 22 ans, puisqu'il a été condamné pour complicité... étant membre d'un groupe qui était les fractions armées libanaises pendant l'invasion du Liban par Israël, et il a été condamné à perpétuité, et puis sa peine a été revue et sa peine il l'a exécutée. Donc aujourd'hui il devrait être libéré depuis 99, sauf que les pressions des États-Unis et d'Israël font que Macron n'obtempère pas. Et ça a été pareil sous Sarkozy, ni Valls, ni personne, aucun des premiers ministres qui ont été en place n'ont signé ce fameux décret d'extradition qui est nécessaire, puisque la justice qu'il a déclaré libérable en 99 imposait une seule condition, c'était que quand il sort, il est extradé immédiatement vers le Liban. Donc c'est une signature en bas d'un décret. C'est tout. C'est la seule chose qui est nécessaire. Et eh bien, personne ne le fait, pas plus Macron que ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Cet homme aura passé plus de la moitié de sa vie en prison. Il est gardé en otage.
Et du coup, c'est une des luttes, la lutte pour la cause palestinienne, qu'on voit transparaître dans le livre dès cette époque-là, du coup, dès les années 60.
C'est l'internationalisme aussi, cette époque.
Oui, oui, c'est l'internationalisme, c'est aussi la lutte contre le colonialisme, puisque les premiers comités Palestine apparaissent en 69, et il va y avoir le fameux septembre noir, le massacre des populations, des fédayines par l'armée de Hussein de Jordanie, qui va être un massacre qui se passe vraiment dans le silence des pays occidentaux. Et la mobilisation des travailleurs immigrés en France autour de la cause palestinienne est très forte à l'époque. D'ailleurs, les manifs, les comités palestiniens sont dirigés par des travailleurs immigrés, beaucoup de travailleurs marocains qui ont été d'ailleurs dans des luttes syndicales au Maroc et qui ont été souvent, qui se sont exilés souvent parce qu'ils avaient subi une répression terrible. À ce moment-là, enfin, je ne sais plus en quelle année c'était, mais il y a eu un mouvement syndicaliste très fort au Maroc. Et il y a beaucoup de ces militants-là qui sont à l'époque en France et qui vont être dans les comités. Et puis, nous, à la gauche prolétarienne, on est une organisation dans laquelle il y a aussi beaucoup de travailleurs immigrés. Donc tout ça fait que les comités Palestine prennent assez rapidement de l'ampleur.
Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères. Tous unis avec eux, on vous déclare la guerre.
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans.
Mais 68, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, quel bilan tu fais, toi, de ton investissement à l'époque? On sait, enfin, ça transparaît un peu, parce qu'il y a eu l'aveuglement sur avec le petit livre rouge, le communisme. Alors nous, on est plus anarchistes, donc du coup, on comprend très bien ce qui a pu exister à l'époque et ce qui, à partir du moment où les militants et les militantes se rendent compte que ça ne marche pas non plus, le communisme. Toi, tu retiens quoi de cette époque, de ces erreurs et de ces batailles qui ont servi quand même à quelque chose ?
Je le dis un peu dans la postface. Mmh. Pour moi, c'est pas de l'aveuglement. Hein. Pas une période d'aveuglement. C'est peut-être que si j'avais rencontré d'abord des militants anarchistes qui faisaient des choses qui me paraissaient justes, je serais plus volontiers allé vers eux. J'en sais rien. Il se trouve qu'à la fac de Vincennes, les gens qui étaient actifs, qui faisaient des actions sans arrêt, qui étaient toujours prêts à aller là où il y avait des luttes, qui donnaient de leur temps et de leur conviction en permanence, c'était des maoïstes. Certains qui, il y avait des maoïstes qui venaient du PCMLF, il y avait des gens aussi du 22 mars, qui étaient quand même plus libertaires. Donc assez vite, ce groupe s'est formé et puis est devenu un groupe de la gauche prolétarienne. Que les Chinois appelaient plutôt les Mao Spontex. Hein. Les Chinois nous aimaient pas beaucoup. Ils aimaient mieux les gens du PCMLF qui étaient dans l'orthodoxie totale du maoïsme. Je dirais que à la gauche prolétarienne, on connaissait rien du tout de la Chine. On était complètement ignares. Mais on aimait bien les citations du petit livre rouge qui nous servait de
slogan.
Oui, pour moi en tout cas, ça n'a pas été au-delà de ça, c'est-à-dire que j'aimais pas les défilés militaires sur la place Tiananmen, j'aimais pas que les gens soient tous habillés en uniforme, tous pareils, j'aime pas tout ça, c'est pas moi, mais je ne renie rien parce que si tu veux, je pense que ce groupe a fait pendant les années où il a existé des choses justes. Je n'ai jamais participé à une action, à un mouvement, en me disant « c'est pas bien, mais je le fais quand même parce que j'obéis ». Jamais. Je pense que tous les fronts sur lesquels on s'est battu, il fallait y être. Les prisons, le logement, le racisme, les crimes racistes qui étaient très nombreux en 70-71. Bien entendu, les conditions de travail, le capitalisme, tout le reste. Tous les fronts étaient justes et on n'était pas trop nombreux. Je peux dire qu'il y a des moments, il n'y avait que nous, sans faire de triomphalisme. Il y avait que les Mao. Bon, alors, Spontex, pas Spontex. Moi, je n'ai pas été aveuglé, mais j'ai été plus en contact, si tu veux, dans les débuts de mon engagement avec, effectivement, des gens qui étaient plutôt dans cette mouvance-là. Donc je regrette rien, je renie rien, je continue pareil, je continue de trouver qu'il y a des mots d'ordre du petit livre rouge qui sont extrêmement justes, comme on a raison de se révolter, et d'autres. Mais ça c'est comme je pourrais citer, je sais pas, une phrase de Camus, de Sartre, j'en sais rien. Mais l'étiquette qu'on nous a collée, je pense qu'elle était elle n'était pas justifiée parce que on a été au bout de cet engagement. Je regrette pas d'avoir travaillé en usine, mes camarades non plus. Il y en a qui sont restés toute leur vie jusqu'à la retraite en usine. Donc il y avait un engagement sincère et qui est allé au-delà de ce moment où on a pu se revendiquer de la Chine communiste. Quand la GP s'est autodissoute, ça faisait déjà un petit moment qu'on savait qu'en Chine, les droits de l'homme n'étaient pas franchement respectés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, évidemment, on ne s'y référait plus.
Mais franchement, aujourd'hui, on peut quand même remarquer, alors il y a des nouvelles luttes qui apparaissent plus, peut-être d'une manière plus importante dans la masse de gens qui s'investissent. On parle beaucoup de la lutte des femmes, du climat, mais quand même, nous qui avons un petit fonds de syndicalistes rouge et noir, oui, on choisit notre syndicalisme, on ne peut pas dire quand même que les luttes syndicales et sociales soient portées par beaucoup de monde et par une nouvelle génération. Non. C'est un peu triste, non ? Enfin, je ne sais pas, c'est ce que vous en pensez tous les deux.
Oui, mais...
Nous, on a été à la CNT pendant un certain temps. Oui, c'est vrai que ça ne prend plus.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que on doit beaucoup à Sarkozy. On doit beaucoup à Sarkozy parce qu'il a déclaré qu'il fallait en finir avec, avec l'héritage de mai 68. Alors ça, ça nous a pulsé totalement pour mettre en chantier cette affaire. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est toujours de prendre le contre-pied des déclarations à la gomme, comme ça, tonitruantes. Bon, évidemment, on comprend que ce connard ait pu dire ça, on le comprend tout à fait. Mais nous, ça nous plaît beaucoup, parce que c'est ce qui nous donne l'énergie de nous exprimer sur ce sujet-là.
C'est Mais tout. Par rapport à la question que tu posais sur le syndicalisme, le paysage social a changé complètement. Donc aujourd'hui, c'est quoi la lutte des classes? Elle est où? Elle se développe comment? C'est quoi le prolétariat? Où est-ce qu'il est? On a délocalisé les usines. On a créé un nouveau prolétariat dans des pays comme la Chine, précisément, le Bangladesh, la Tunisie et d'autres, qui fabriquent tout ce qu'on porte, nos vêtements, etc. Ce prolétariat-là, il est seul, il n'a pas d'éducation politique, il n'est pas syndiqué, à ma connaissance, et pourtant, il n'a aucun droit social. Toutes les conquêtes que les Français dont ils ont pu bénéficier, elles sont perdues, quelque part. Et par contre, on a créé ici une nouvelle classe sociale qui sont les précaires. L'ubérisation, les livreurs, les 25 000 livreurs qu'il y a en France et qui n'ont aucun droit, qui n'ont pas de retraite, etc. Et je ne parlerai même pas de, bien que j'aurais envie d'en parler aussi, des détenus qui travaillent et qui, eux non plus, n'ont aucun droit, n'ont pas de statut social, ne dépendent pas du code du travail, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est perdu aussi, là. Cette lutte syndicale, que là aussi il y a une crédibilité qui n'est plus là. Je pense que les gens font plus confiance, ou je sais pas. Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus du tout d'éducation politique aussi et syndicale qui s'inscrivait dans une tradition, bon, depuis le Front populaire. Aujourd'hui, qui va et puis aussi, les gens sont plus ne travaillent plus ensemble. Enfin, tous les gens qui sont soumis à l'ubérisation, que ce soit pour conduire des bagnoles ou pour livrer de la bouffe, ils se rencontrent pas. Il y a pas de cohésion, il n'y a pas d'union. Donc tout ça, ça pose un vrai problème. Je crois qu'il faut repenser le syndicalisme autrement. Et j'ai pas de recette, hein, j'en sais rien, j'ai pas de recette. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a, en délocalisant et en acceptant de faire fabriquer tout ce qu'on consomme à l'étranger, dans des pays où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a pas de liberté du travail, on a créé une nouvelle classe ouvrière, ailleurs, un nouveau prolétariat, qui est abandonné à lui-même. Cette situation invraisemblable d'esclavage que les Occidentaux ont contribué à laisser créer.
On avait des petites questions bonus.
Ah ben, une question bonus, c'est sur Jacques.
Ouais.
c'est quoi le prochain projet en BD
Le prochain projet, en ce moment, je travaille sur le 10e et dernier Adèle Blanc-Sec.
Alors, du coup, Laurent est très heureux, faut le dire à nos auditeurs, à nos auditrices, un homme heureux.
Non, j'avais dit que j'en ferais 10, pas un de plus, et il y a 14 ans, exactement, j'avais terminé le 9e, et je me suis dit, bon, dans la foulée, je fais le 10e et dernier, ça sera bouclé. Et au bout d'une quinzaine de planches, j'ai arrêté, je suis passé à autre chose, je ne sais pas ce que j'ai fait, le stalag ou je ne sais pas quoi. J'ai laissé tomber. Et puis donc là, après avoir terminé Élise, je me suis remis, j'ai relu ces 14 premières planches, et j'avais laissé mes personnages, il y avait une épidémie. Il y avait une épidémie et les personnages cherchaient un vaccin. Ils cherchaient un vaccin pour faire du fric. Bon, voilà, je les ai laissés dans cette situation-là. Alors, c'est un peu périlleux de reprendre le récit avec ce qu'on connaît, ce qui s'est passé depuis. Donc, voilà, je suis là, je patauge un peu là, dans la reprise du scénario qui était. Et en plus de ça, j'avais des personnages, un espèce de savant fou qui avait fabriqué des clones d'Adèle Blanc-Sec, des clones explosifs destinés à être envoyés sur des cibles. Alors après, il s'est passé ce qu'on sait et tout. Donc là, je suis vraiment dans une situation. Il faut que je dépatouille tout ça pour essayer de pas tomber dans des pièges que je me suis moi-même tendu. Voilà ce que je fais.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.
C'est nous.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patron qui exploitait et flic qui matraquait. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes